Du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Troisième volet, Bouddha aurait-il su faire une omelette? Dans les années 70, suite au bouleversement politique que traversait la péninsule indochinoise, plusieurs dizaines de milliers de Laotiens ont fui leur pays et se sont réfugiés en France. L'enracinement dans cette culture a nécessité de la part de ces exilés une adaptation en tout, et les rites religieux n'ont pas échappé à cette règle. Même s'il ne faut pas oublier que le Laos est riche de plus de 70 ethnies différentes, une grande partie des Laotiens admet le don et la méditation bouddhiste comme élément essentiel de l'existence, et la présence des morts et des esprits parmi les vivants comme une condition du bon déroulement de la vie en communauté. Des coutumes dont on ne peut pas dire qu'elles soient en parfaite adéquation avec le matérialisme occidental. Au temple bouddhiste de Marseille, situé dans un pavillon du 15e arrondissement, les traditions laotiennes perdurent, essentiellement menées par les femmes de la communauté.
Tang sati prakong putho putho jon hai jit khong hao songop long bun kusol ko ja keut khun kho nyat nyom jong lai tang chai pen vela 15 minutes. Khosen.
Se mettre à genoux, agenouillés, et puis les mains jointes, et commencer les prières.
Madame Nin, arrivée en 1959.
Oui, bien sûr.
De quoi ça parle?
Bien se tenir, apprendre à répéter les mots magiques de tout. Les conseils de Bouddha, c'est pour éviter les difficultés de la vie, éviter tous les obstacles en vue. Quand on apprend à donner, il faut apprendre à donner, pour recevoir, il faut donner. Chez nous, c'est comme ça.
C'est quelque chose d'essentiel dans le bouddhisme,
oui.
Ça.
Oui.
Qu'on ne retrouve pas trop dans la culture occidentale.
Ah, je ne vois pas beaucoup, oui, c'est vrai.
Un dimanche venteux de novembre à la pagode bouddhiste du 15e arrondissement de Marseille.
ถวายเครื่องไตรทานเครื่องสังฆทานเสร็จแล้วก็ไปตักบาตรข้างนอกถวายนะครับที
่สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโต
Comment dire, quitter les chaussures comme ça, et puis quand les bons passent, on trouve un petit peu sur le bon, chacun on trouve deux, et puis des gâteaux, et puis des fruits comme ça.
Ils vont passer où?
Je crois pas ici, il est passé.
Le monsieur me dit qu'il ne faut pas que je remette mes chaussures.
Mais c'est-à-dire
que tout le monde a ses chaussures.
Non, tout le monde a ses chaussures parce qu'il fait froid. Mais simplement, oui. Du moment où vous faites cette offrande, il ne faut pas mettre des chaussures. Il y a une raison pourquoi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit...
Evelyne.
Ce sont des bronzes qu'on nous respections, on mettait plus haut que nos têtes. Et si on se perchait plus haut que lui pour mettre... En général, on doit même agenouiller, nous les femmes, pour mettre ces offrandes. Bon, c'est vrai, nous sommes en France, on nous dit de faire des offrandes sans être dans la souffrance. Parce que c'est pas tout le monde qui puisse s'agenouiller, alors nous nous permet de rester debout. Mais comme il ne faut pas être plus haut que les bonzes, parce que nous respections beaucoup, il faut se déchausser. On nous a dit que si on reste chaussé pour faire cette offrande, dans une autre vie, on aura une énorme pied. Voilà. Mais on peut le mettre les chaussures en attendant qu'on le fasse cette offrande.
Je peux mettre mes chaussures et les enlever.
Mais bien sûr. Mais si vous ne faites pas les offrandes, vous pouvez garder vos chaussures.
Je ne fais pas les offrandes, mais je respecte.
Voilà. Mais vous pouvez garder les chaussures.
Oui, on peut le cas.
Oui, on peut garder les chaussures.
Oui, on peut le cas.
C'est simplement dans la situation qu'on fait l'offrande.
D'accord. Bon, alors je remets mes chaussures.
Et ça, c'est tout, ce sont toutes mes sœurs. Ça, c'est j'ai 7 sœurs et ça, c'est des amis. Tout ça, c'est la famille. Vous voulez boire quelque chose?
Non, merci, c'est gentil. Et mais alors, tout ça, c'est pour c'est des offrandes pour la pagode ou c'est pour vous?
Non, d'abord, on donne aux bonzes. Une fois qu'ils ont terminé, nous, on pourra manger après.
D'accord.
Eux, il faut qu'ils mangent avant midi. Et nous, on n'a pas le droit d'y toucher. On prépare seulement et puis on leur donne d'abord. On fait des offrandes d'abord.
D'accord.
Voilà.
Et alors, vous célébrez vos ancêtres? C'est ça? Vous rendez hommage à vos ancêtres?
C'est ça. Aujourd'hui.
La plupart de vos ancêtres doivent être en Thaïlande, au Laos, au Cambodge.
Mais même ici.
Et comment ça se passe? Oui. Vous pouvez leur faire des dons ici.
Voilà, c'est des dons ici, puis ça arrive.
Ça arrive pour nous.
Oui, parce qu'on croit beaucoup à la réincarnation, nous.
Et chez vous, vous avez un hôtel pour les ancêtres?
Un hôtel, en général, je parle de chez nous, c'est plutôt, on fait une sorte de pyramide pour garder l'urne dans la pagode. Nos parents doivent être dans la pagode. C'est un lieu de culte. Bon, ici, on respecte la tradition, hein, le respect surtout qu'il faut l'amener au cimetière, donc il faut comme tout le monde l'amener au cimetière. Sinon, en général, nos parents sont dans l'urne.
Et ça pose pas de problème pour la religion que les
Absolument
gens
sont, pas. Les corps sont enterrés. Non, incinérés.
Ah, ils sont incinérés.
Les bouddhistes sont incinérés.
Mais seulement, vous n'avez pas le droit de garder l'urne pour la mettre...
On peut le garder, si on a envie de garder. Mais simplement, notre culture, on ne garde pas l'urne chez nous.
Oui, mais vous ne pouvez pas l'amener à la pagode.
Si, on peut l'amener. Il y en a des urnes dans la pagode.
Alors, je n'ai pas compris.
Je disais que nos morts, en général, sont à la pagode, sont ici. Parce qu'une fois incinérés, on l'amène à la pagode. Et on fait des sortes de monuments, si vous voulez, pour mettre, pour qu'on sache qu'on vienne prospérer. Mais simplement ici, on ne peut pas faire comme on veut. Hein.
Vous voulez dire parce que vos anciens, ils sont morts au Laos?
Non. Mais ici, on l'amène quand même, mais on le met à l'intérieur, sous le Bouddha. On ne met pas à vue comme on le faisait.
Pourquoi?
Parce que manque de place. Une, bon, c'est du manque de place. Et deux, je crois qu'on n'a pas encore fait la démarche pour faire la demande. Si on peut mettre en présent, en voyant pour voir tout le monde, on ne sait pas encore ça. Avant de commencer la cérémonie, il nous explique d'abord en parole laotienne, c'est ce qu'il va faire, de ce que c'est comme spécifique comme cérémonie. Après qu'il récite, c'est en bali.
Et vous, quand vous répétez les choses, c'est des noms de...
C'est en bali. Mais c'est en bali, ce sont des règles, 5 règles de la vie que nous acceptions.
Parce c'est quoi ces règles?
Ces règles, c'est-à-dire le premier, il ne faut pas le tuer. Tuer, au moins tuer pour le plaisir. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tromper, il ne faut pas consommer l'alcool, Et le cinquième, c'est mentir. Sur ces règles de la vie, vous vous regardez dans la classe, si vous avez au moins une de ces règles, c'est que vous êtes un être humain. Si vous n'avez aucun de ces règles, c'est que vous n'êtes pas un être humain.
Et si j'ai les cinq?
Ah ben c'est magnifique. Alors si vous avez les cinq, c'est encore au moins une règle.
Et alors comment l'entretien de la pagode se fait? C'est des dons?
Ah, les dons. Uniquement qu'avec les dons. Uniquement avec les dons. Et plusieurs gouttes d'eau, ça fait une mare. Plusieurs mares, ça fait une rivière. Plusieurs rivières, ça peut être un lac.
Je vois la religion ici, comment elle est pratiquée.
Anita, arrivée en France en 1974.
Il y a le côté religieux, c'est-à-dire, à mon avis, un bon devrait quand même transmettre, pas seulement être le soutien, celui qui fait la liaison dans la communauté pour souder la communauté à travers les traditions, les coutumes, tout ça. Mais il doit quand même transmettre aussi les préceptes, expliquer ce que c'est et que les gens puissent quand même avancer. Et ce que je vois là, c'est les gens, ils sont là, c'est surtout parce que c'est des fêtes, c'est surtout partager quelque chose ensemble. Bon, on fête par exemple la naissance de Bouddha et tout ça, c'est bien. Mais on ne comprend pas trop d'où ça vient et pourquoi on le fait. Et là, dans le bouddhisme, il n'y en a pas beaucoup qui puissent vraiment te l'expliquer. Et quand je vais à la pagode, je n'ai jamais de réponse, tu vois. Tout ce que je vois, c'est surtout, bon, c'est des fêtes, c'est sympathique, quoi. On est content de se retrouver. Surtout, on est content de se sentir là aussi, quoi. Entre nous, à travers quelque chose qu'on fait ensemble, en commun.
Ouais. Alors, il y a quelque chose de très troublant pour moi, c'est que pendant tout ce temps où on parle, je pense à l'hôtel des ancêtres, qui est aussi une pratique qu'on voit beaucoup, beaucoup au Laos. Et pendant que je pense à ça, parce que on parle de la pratique bouddhiste, je vois la crèche ici, sur la cheminée.
C'est parce que mon mari, lui, il est chrétien. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'on fait Noël, hein. Il pourra peut-être dire ce que c'est que vraiment la religion, quoi. C'est vraiment assez... Ben c'est pareil au Laos, hein. C'est vraiment assez en surface de ce qu'on connaît. Mais en profondeur, ben je pense qu'il y a une recherche personnelle, hein. C'est chacun... Si on veut vraiment chercher, chacun va le chercher. Sans entrer dans le mysticisme, le problème, il est là, on est toujours... Parfois, j'ai l'impression qu'on est dans une secte, tu vois. Quand il y a tel bon ce qui arrive, l'autre bon ce qui arrive, on y va et puis il faut payer.
Comment il faut payer?
C'est-à-dire, quand il y a un bonze, quand on va... Non, il ne faut pas payer, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, nous, tu donnes ce que tu veux, dans le principe. Tu donnes ce que tu veux. Si tu ne veux pas donner, il n'y a pas de problème. Ça devient une habitude, ça devient un fait, et après, ça devient comme une obligation. Voilà, c'est une culture plutôt assez macho, parce qu'à chaque fois, on me dit le bouddhisme, mais je ne vois qu'à un moment, il y a quand même des femmes qui peuvent accéder à cette connaissance, qui devraient pouvoir, tu vois, accéder à ces connaissances, à cet état de Bouddha, puisque Bouddha, il n'a pas dit qu'il n'y a que les hommes qui peuvent être Bouddha, qui peuvent être bonzes, à la limite. Je ne sais pas s'il l'a dit ou pas, hein, c'était pas écrit, à mon avis. Il faudrait que je le demande aux bonzes. Mais je n'ai jamais l'occasion vraiment de pouvoir aller leur demander, leur poser ces questions-là. Parce qu'il y a quand même des femmes, comme dans toute religion, surtout dans le christianisme, il y a quand même des saintes, où on vénère, où on est là quand même. Alors que dans la religion laotienne, dans le bouddhisme, je ne vois pas de femmes. Ils trouvent que les femmes, pour qu'elles... que les femmes, ce sont des tentatrices. Et finalement, ils se posent tous en victime. Et nous, les femmes, on est vraiment des mauvaises, je veux dire, des mauvaises choses, quoi, disons. Hein. Bon, ça, c'est même avec Bouddha, moi, j'aurais été pas d'accord avec lui, parce que quand même, c'est grâce à sa mère qu'ils sont là, ils sont là. Heureusement qu'il y a des femmes pour leur donner vie. Quand même, c'est les femmes qui leur font à manger ces repas-là. Et pourquoi il faudrait que ça passe pour les hommes? Il faudrait quand même ça à réfléchir. Il y a des choses que...
Il faut expliquer peut-être ça. Les bonzes, traditionnellement, ne peuvent pas prendre les choses directement de la main d'une femme.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, et pourtant, les femmes, elles, quand tu les... Parce que nous, heureusement que je suis femme pour connaître ce qui se passe derrière. Hein, parce que les hommes, de toute façon, tu peux leur dire ce que tu veux, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir aussi. Hein. Alors que les femmes, ben, c'est quand même elles qui comme toute société, hein, partout, même en Afrique, même... Bon, je parlerai plus d'ici, parce qu'ici, c'est autre chose, mais parce qu'il y a une évolution, les femmes, et elles arrivent plus ou moins à égalité avec les hommes, soi-disant aussi, parce que l'égalité... Mais au Laos, c'est quand même la femme, c'est grâce à la femme que la famille, elle tient debout, c'est grâce à la femme qu'il y a cette cohésion sociale, qu'il y a tout ça, quoi. Et c'est grâce à la femme aussi que l'homme, il a sa position sociale. Parce que l'homme, il donne l'argent peut-être pour aller faire les courses, si tu veux, mais c'est quand même elle qui doit gérer. S'il n'y avait pas la femme à la maison, ben, qu'est-ce qu'il fait l'homme, hein? Il ne saura même pas se faire une omelette, hein? Je suis désolée, mais...
Ah, c'est l'hôtel, comment dire, c'est, pour moi c'est l'hôtel de Bouddha.
Gisèle.
Je sais que d'une façon générale, quand on entre chez des Asiatiques, on dit que c'est l'hôtel des ancêtres, mais je crois que c'est plus particulier aux Chinois, l'hôtel des ancêtres, à ce que j'en sais. Hein. Et moi, c'est l'hôtel de Bouddha. J'ai des Bouddhas qui m'ont été soit offerts, soit parce que j'ai été le demander. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je fais un don à la pagode en faisant une demande. Et à ce moment-là, le vénérable de cette pagode me donne un Bouddha pour venir me protéger, moi, ma maison et les miens. Mais quand je dis les miens, c'est au sens large, vraiment moi et vraiment tous ceux que j'aime, ma famille, mes amis, enfin, tous ceux qui sont bien avec moi, profitent, si vous voulez, des bienfaits de l'offrande que j'ai faite et ce que je reçois en retour. Voilà, et tous les Bouddhas qui sont là, ce sont soit offerts, soit c'est... En général, c'est parce qu'on me les a donnés, parce que je les ai demandés. Cela arrive, quelle que soit la façon, cela arrive. Et il y a également les photos de mon père, de ma grand-mère, d'une de mes tantes, du côté paternel. Du côté maternel, je n'en ai pas trop parce que je les adorais toutes celles qui sont parties. Mais je n'ai pas eu envie d'avoir leurs photos parce qu'elles sont en moi. Alors que, bon, mon père, ils ne sont que tous les deux. Mon père et ma tante, ils sont que deux frères et sœurs. Mmh. Et je voulais les réunir là, avec leur maman. Et ainsi que d'autres disparus qui me sont chers.
Et alors, quand je suis arrivée ce matin, il y avait une cassette qui est passée, il y avait de l'encens. En fait, je suis arrivée en plein milieu de quelque chose.
Vous êtes arrivé à 11h, c'est l'heure à laquelle on commence au Laos ou dans les pays bouddhiques à donner à manger à Bouddha. C'est-à-dire que les bonzes, vous savez, ne vivent que de mendicité et ils ne mangent qu'une fois par jour. Alors à partir de 11h, parce qu'on ne doit pas leur servir à manger au-delà de 11h30. Parce qu'à midi, il faut que tout soit terminé. Prière comprise, donc après, on va méditer, etc. Et donc, à 11h, on avait mis notre offrande en aliments à Bouddha. Et cette offrande va parvenir donc à Bouddha et ainsi qu'à tous nos disparus qui pourront ne manquer de rien chaque jour. Ils auront toujours à manger, toujours à boire. Et au moment du nouvel an, on fait quelque chose d'encore mieux. On améliore l'ordinaire, on va dire. Hein, et évidemment, à la suite de ça, je mets une prière sur cassette parce que je ne connais hélas pas par cœur. Ces prières qui sont quand même pratiquées à chaque occasion importante de la vie d'un Laotien bouddhiste. Avec une bougie, bien sûr, allumée et un bâton d'encens.
Voilà. Et il y a aussi une prière le soir, alors
La prière du soir, bien, je l'ai faite... ça existe parce que les gens qui sont croyants et pratiquants le font. C'est vrai, d'une façon régulière. Moi, je le mets parce que cela m'apaise. Mm-hmm. Je mets cette cassette, je m'installe confortablement, Je ne sais pas si on peut dire que je me mets en méditation, mais je m'installe confortablement et je me sens bien et j'écoute jusqu'à la fin de ma prière et je me sens très très bien.
Upatthave aneka antaraya pivinasanto.
Est-ce que les ancêtres de la première génération qui est arrivée ici, ils sont au Laos ou est-ce qu'ils peuvent venir chercher les offrandes ici? Comment ils se sont débrouillés avec ça? Parce que par exemple, on dit qu'il faut les nourrir tous les jours comme des gens vivants.
Là, on est dans un terrain mouvant parce que, de toute façon, ils n'ont pas de matérialité, ces ancêtres.
Catherine Chorombé, anthropologue au laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS.
C'est ça qui est intéressant, justement, c'est que ce sont des représentations essentiellement mentales, quoi. Et donc, en fait, je pense que la vénération des ancêtres, c'est-à-dire en fait des morts, quoi, hein, des morts du groupe de parenté, je pense qu'elle est, elle est venue avec la migration, c'est-à-dire que les gens ont emporté avec eux le souvenir de leur mort, quoi. Donc ils se sont constitués effectivement des hôtels. D'ailleurs, c'est très peu contraignant, hein, le culte, c'est quelque chose de très personnalisé et très individualisé, donc c'est assez peu contraignant. Mais je pense que à certaines dates particulières, en tout cas, il est célébré, ce culte aux ancêtres. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ancêtres, des nouveaux ancêtres, si je puis dire, qui sont des gens, ceux qui sont morts ici, et il y en a de plus en plus. Moi, je le vois très bien, puisque maintenant, ça fait 30 ans quoi, que je suis des familles. Et donc, y a des tas de gens qui sont morts en France. Et alors, dans quelques cas, les cendres sont ramenées au Laos, mais pas toujours, et même c'est plutôt rare, parce que ça coûte très cher, etc. Donc, en fait, le relais est pris par ces ancêtres-là, et c'est aussi ça, un peu, l'histoire du culte des ancêtres, c'est-à-dire que ça suit les générations aussi, il y a des relais qui sont pris. Et donc, je pense qu'en réalité, ça, c'est probablement quand même quelque chose qui se maintient fortement.
Y compris dans les générations suivantes qui sont nées ici.
Je crois parce que le culte des morts, c'est quelque chose. C'est peut-être effectivement. Bon, si on admet que la disparition des êtres chers est une souffrance universelle, je pense qu'ils trouvent dans les rites là-haut, enfin, de leur culture d'origine, un réconfort, quoi. Et donc, je pense que même les jeunes générations se prêtent à ça. Alors, certainement, les rites vont se simplifier, mais on continue à veiller les morts de la même façon que là-bas. Enfin, pas de la même façon, parce que c'est pas possible ici. Mais disons, on adapte quoi les rites pour qu'ils soient praticables ici, mais ils subsistent quand même. C'est-à-dire que bon, on veille. Alors, si on veille pas le mort pendant 8 jours, comme on le fait au Laos, on met des photos, des bougies, etc. Mais on veille quand même, nuit et jour, pendant 8 jours. Enfin bon, tout ça est maintenu quand même. Et je pense que... pour le moment, moi, ça me semble être quelque chose qui... Justement, ça fait partie des choses fortes qui restent, je crois.
Oh,
เสร็จแล้วจึงลุกไปจัดเตรียมอาหารตักบาตรพระก็ถือว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในบุญนี้เท่าเทียมกันผู้เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือลุงตีที่โยมรู้จักนะลุงตีแล้วก็มีโยมเฮียงมีโยมกุยโยมปาแล้วก็บรรดาลูกหลานของเพิ่นซึ่งก็รู้จักกับญาติโยมหลายหลายคนเพราะเมื่อญาติโยมทำบุญเพิ่นก็ไปช่วย
Perpétuer les traditions permet à la communauté laotienne des environs de Marseille de se retrouver régulièrement et à ses membres de vivre à peu près sereinement dans un pays où des valeurs essentielles comme la foi en la transmission entre les générations et l'idée de continuité ne font pas vraiment floresse. Cela dit, vivant en France, les femmes d'origine laotienne ont eu le temps de réfléchir aux pratiques dites bouddhistes et certaines portent un regard critique sur la doctrine du bouddhisme Theravada à la laotienne qui exclurait a priori les femmes du chemin initiatique qui mène à l'état de Bouddha. C'était « Bouddha aurait-il su faire une omelette ?», troisième volet de la série documentaire en 6 épisodes du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Un projet de Marine Richard soutenu par le dispositif Identité, Parcours et Mémoire, Mixage et Astuces Sonores, Tony Regnault et Sébastien Gély. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.grenouille888.org.